Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Vous voulez des cafés?
Ah oui, bien serré s'il te plaît, parce que là j'ai intérêt à être alerte. On reçoit Adeline Mehdi. Ah
bah j'espère qu'elle sera sympa. Parce
Alex,
que...
oui. C'est un homme.
Mais oui, mais qu'il est bête. Bon. Mehdi, c'est un prénom d'homme.
Guillaume, enfin, même Mehdi, c'est son nom de famille.
On n'a pas hyper bien préparé le dossier.
C'est un journaliste algérien.
Ah bah ça j'ai vu, Alors il travaille pour le quotidien El Watan, le plus grand quotidien francophone.
Oui, bah, sauf qu'il y travaille plus maintenant.
Oui, bah s'il nous appelle pas pour prévenir, comment tu dans ça?
En plus, bon, c'est vrai que je sais que le dossier algérien pour les Français c'est assez chaud.
Moi je connais un petit peu l'Algérie.
Ah, bah ça va nous aider ça.
En fait, j'ai un grand-père qui, bon, à l'époque, avec le général Bigeat.
Non, ça va aller.
En même temps, nous non plus, les Belges, on n'a pas été brillants avec le Congo.
C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on a laissé à cette jeunesse africaine?
Ne lui parlez pas de jeunesse africaine.
La jeunesse africaine n'existe pas, déjà. Il n'y a pas une jeunesse africaine. Elle est aussi multiple que la jeunesse à Paris. Clermont-Ferrand.
Ah ouais, bon, ça je le savais pas. Hein.
Mais quoi?
Bah je savais pas qu'il y avait des jeunes à Clermont-Ferrand. Ça.
Bon, non, les amis, vous savez quoi? Aujourd'hui vous allez me laisser mener la barque.
Oui, bah comme d'habitude.
Enfin, c'est con parce que moi j'ai un très bon ami arabe.
Non, Guillaume, ça va aller. Mais vraiment, t'inquiète. Enfin, plutôt sur le terrain, là, t'as pas un reportage à faire.
Non, mais attends, parce qu'en plus je parle un peu arabe. Moi je sais dire Djellaba, je sais dire Nabil Fekir, Corne de Gazelle.
Oui, enfin, tu parles aussi bien arabe que Laurent Wauquiez.
Je sais dire merci aussi, choukran.
Oui, choukran pour ton expertise, Guillaume.
Voilà, bon, non, Charline va bien se débrouiller. Bon, bah on espère que ça ira.
Ah bah, Inch'Allah, comme on dit.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up publique et voici les actualités appelées à témoigner devant la commission d'enquête de la blague. Si on laisse faire le ministre de l'Éducation, les petits Français risquent de parler arabe. Hein, attention. Jean-Michel Blanquer propose d'apprendre l'arabe comme on enseigne le russe ou le chinois. C'est la fin de la civilisation française. Parce que, alors là, même si Laurent Wauquiez s'y met. Hein.
Bien sûr. Daras tel Foussef, Imedinet tel Kaira.
Ça, vous la dites souvent. Il y en a une deuxième.
Vous avez d'autres interrogations, madame Salamé?
Ça ira, merci.
Bim.
Scandale dans le milieu littéraire. Les jurys du Renaudot ont sélectionné un livre qui n'est disponible que sur Amazon, Le Fossoyeur des libraires indépendants. Alors, faut-il sortir cet ouvrage de la sélection?
Messieurs les censeurs, bonsoir.
Les habitants des grandes villes aspirent à vivre dans les communes à taille humaine, parcourront le palmarès de ces villes les plus agréables de France.
Si vous n'aimez pas la mer... Si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Oui, très bien.
Alors, lui vous dira que la ville la plus agréable de France, c'est celle où il n'y a pas de français. Bonjour Alex Vizorek.
Oh, je ne suis pas à ce point-là.
Ah bah bravo, oui. Bah bien, bah bel esprit,
je
vous accueille.
Je suis choqué. Il peut y avoir des Françaises, ouais. Et ça ira très bien. Eh bien, je vais vous présenter cette belle équipe que nous avons composée aujourd'hui. À 17h20, celui qui nous l'a annoncé dans le bureau. Aujourd'hui, il n'est pas impossible que je respecte les timings.
Ah oui, c'est vrai.
Et il est très possible que ce soit une promesse de campagne, Pablo Mira.
Salut Alex, bonjour Charline. Guillaume. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur cette proposition de renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école. Une idée qui a déjà provoqué 36 000 AVC, rien qu'à l'intérieur du cerveau de Dupont-Aignan. À tout à l'heure.
À 17h30, il est retourné pour la première fois cette année dans un lieu où tout le monde l'aime. Alors, content de retrouver l'Assemblée nationale, Guillaume Meurice.
Oui, j'étais heureux. Bonjour à tous. J'y suis allé pour parler de Richard Ferrand et j'ai donc rencontré, bien évidemment, des députés.
Moi, je suis le lobbyiste du Médoc, le lobbyiste des plages et du vin.
Et bam, il a gagné la voix de Juliette Arnaud.
Eh bien, c'est elle qui, à 17h40, viendra nous parler d'un livre qu'elle n'a pas écrit. Et il y en a aussi des bons dans cette catégorie-là. Bonjour Juliette Arnaud.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Promesse de campagne, au moins par deux fois, je dirais, des mots arabes.
C'est pas vrai.
Ouais, promesse.
Dites donc, mais est-ce qu'il y aurait peut-être un lien avec l'invité?
Mais bien sûr, voici celui qui va présider notre assemblée. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Adlan Meddi.
Et voilà.
Yes.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Vous le prononcez très bien.
On dirait du Guillaume Meurice.
Il y a une prononciation particulière, parce que je sais qu'avec Vanhoenacker, je suis bien placée pour savoir que c'est pas évident.
On dit Adlan Mehdi.
Adlan Mehdi.
D'accord.
Adlan
et on dit Vanoun Haker.
Exactement. Vous publiez 1994. Alors ça, vous le publiez en France. En Belgique, vous publiez 1994, évidemment. C'est paru aux éditions Rivage. Alors, comme l'indique le titre, nous sommes effectivement dans les années 90, ce qu'on appelle la décennie macabre en Algérie.
1984, c'était pas comme l'indique le titre.
Eh bien, oui, mais c'est... Il y a une référence, d'ailleurs. C'est un petit peu...
En fait, il y a une référence, il y a toujours un jeu sur les titres dans cette famille des romans noirs et des romans, oui, des romans policiers. Et peut-être une des références qui peuvent parler de 1984, c'est cette ambiance de paranoïa qui emprisonnait tout le pays à cette époque-là aussi.
Voilà, parce qu'on va placer le contexte que, je ne sais pas si tous les Français connaissent très bien finalement ce qui s'est passé dans cette décennie. Donc 94 est l'apogée, c'est ça, 94-95. Attentat à la voiture piégée, assassinat d'intellectuels et de policiers, les civils qui commencent à s'armer. Le roman démarre dans un cimetière. Amine est un jeune officier qui enterre son père, général dans les services secrets militaire, et il se remémore cette période, et là démarre l'histoire d'une poignée de lycéens qui prennent les armes. Est-ce qu'on on peut résumer 94 comment? Et déjà, quel âge vous aviez, où vous étiez? C'est nourri de...
J'étais pas loin des personnages, je peux pas dire que c'est autobiographique, sinon je risque la prison aussi bien en France qu'en Algérie, la formation de groupes armés clandestins. Mais c'est une ambiance que j'avais vécue. Moi, je vivais à Harrach aussi, ma famille est de là-bas, c'est mon vrai terroir.
Là où
c'est
se situe le roman.
Exactement, ouais. Même par rapport au lycée. J'avais entre 18 et 19 ans à l'époque, donc on est à peu près dans la même tranche d'âge. Et 1994 est une année importante parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une année de bascule dans la guerre civile algérienne, parce qu'on a commencé à armer les civils, et les civils se sont auto-armés aussi. Mmh. Il y a de gros problèmes pour le commandement militaire de contrôler tout le territoire. Les chiffres officiels parlent de 40 000 à 50 000 islamistes armés à l'époque quand même, pour qu'on comprenne bien le contexte. Donc il était impossible pour l'armée algérienne, la police, les gendarmes, la gendarmerie, etc., d'occuper physiquement tout le territoire et faire face à l'insurrection islamiste. Et donc l'idée d'armer et de créer des organisations comme les groupes de légitime défense, armée des paysans, etc., a pris son chemin. Ce qui a fait exploser complètement les fronts de la guerre. On n'était pas dans une guerre entre les islamistes d'un côté et le gouvernement de l'autre. Il y avait un éclatement des fronts. La guerre est rentrée partout, dans toutes les maisons. C'est pour ça que j'avais choisi un regard beaucoup plus intime, mm-hmm, à hauteur d'homme, enfin à hauteur d'adolescent plutôt, pour essayer d'approcher cette complexité qui était à l'époque.
Juliette Arnaud.
Dans le roman, vous êtes très précis sur les armes employées, que ce soit des Beretta ou le flingue russe du général. Tous ces gens qui étaient armés dans les années 90, elles arrivaient d'où les armes ?
Elles arrivaient où, les armes? Alors, il y a deux, pour les civils, il y a une partie qui était armée eux-mêmes. Parce qu'il y avait dans les villages, il y avait des chasseurs qui avaient leurs propres armes pour une défense qui était assez anecdotique. Mais quand même, ils se sentaient un peu en sécurité en défendant leur propre village contre les islamistes armés. Et il y a aussi l'armée, la police algérienne, la gendarmerie qui armait sur ces stocks.
Oui, oui, je parle des islamistes.
Ah, les islamistes? Oui. Les islamistes avaient préparé l'insurrection armée avant même l'annulation des élections en 92, qui ont déclenché vraiment.
Oui, mais elles arrivaient d'où?
eBay, Amazon, ce genre de...
Voilà.
Déjà.
Distribution par drone.
Est-ce qu'on sait jamais très bien ça, d'où elles viennent, non, les armes?
Elles venaient de partout, parce qu'il y a un trafic d'armes. Là, l'Algérie est un grand pays, énorme. Frontière avec le Mali, avec la Libye. Il y avait des réseaux de trafic qui partaient jusqu'au Darfour, au Soudan, etc. À chaque fois qu'une guerre civile se calmait un peu en Afrique, les armes remontaient vers le nord pour être acheminées en Europe.
Alors je disais, votre roman parle de tout ce pan que peut-être tous les Français ne maîtrisent pas, parce que quand il y a des répercussions en France en 95, on est bien sûr plus au courant. Mais est-ce que justement le roman ici, le roman noir, c'est le meilleur vecteur pour raconter ce pan d'histoire qui est parfois vu comme un angle mort de l'histoire?
En fait, les l'appellation du roman noir, elle me gêne un peu parce qu'il s'agit beaucoup plus d'un roman en deuil. J'ai vraiment réfléchi et écrit de cette manière-là pour faire le deuil de beaucoup de personnes qui sont plus là, qui sont parties, etc., d'une manière ou d'une autre, par l'exil ou par la disparition, par l'assassinat. Ouais. Et surtout, la question est de pouvoir approcher cette période-là sans qu'il y ait un discours idéologique autour. Parce que c'est un récit qui est encore otage en Algérie, et en France aussi, de beaucoup de récits idéologiques autour. C'est vraiment la confrontation entre les laïcs et les islamistes, donc les méchants, les bons. En France, c'est encore pire parce qu'il y a un manichéisme pour dire, voilà, il y a des méchants qui sont d'un côté...
Par rapport à l'Algérie, non, vous exagérez. Bon, ça, c'est très bien enseigné à l'école. Non, ça,
donc c'est une période, imaginez que même par rapport à la guerre d'Algérie, on peine dans les deux pays à construire un véritable discours autour de ce qui s'est passé, 54-62, et on parle que de 54-62. Alors dans les années 90, comme les événements sont proches, comme les acteurs sont là, comme la réconciliation, ce qu'on appelle la politique de réconciliation en Algérie depuis 20 ans, ça veut dire c'est des lois d'amnistie ou d'amnistie partielle pour les groupes armés pour qu'ils se rendent, même s'il n'y a pas de chiffre exact, mais schématiquement, il y a la moitié qui a été butée et l'autre moitié qui s'était rendue en 35 ans de lutte antiterroriste en tout. Et donc, essayer de libérer cette période-là et de la sortir de cette prise d'otage idéologique de tous les côtés aussi.
Grâce au roman, hein, donc Adeline Mehdi, donc ce roman qui s'appelle 1994 et qui pose tout ce contexte historique de lieu, de temps en Algérie. Est-ce que vous avez rencontré Rachid Taha?
Non,
jamais. Vous l'écoutiez, j'imagine.
Oui, je l'écoute. Il a fait une reprise d'un très grand chanteur algérien qui s'appelle Dahmal Harachi, qui est de mon quartier. Et cette chanson est devenue un grand tube, c'est Yarraya, la chanson de l'exil. Et ce chanteur algérien, quand il l'a chanté ici, c'était un immigré algérien dans les années 50 en France. Sa chanson a été achetée par un producteur à l'époque. Et lui, il se faisait chasser des bars. Et dans ces bars-là, algériens, à Paris, on faisait passer ses chansons. Et lui, on lui interdit de rentrer parce qu'il était un Algérien.
Eh bien, pour rendre hommage à Rachid Taha, on a choisi Rock El Casbah. Sur France Inter, dans Par Jupiter, c'est Adeline Mehdi qui est avec nous, écrivain, journaliste aussi. Vous êtes toujours collaborateur au magazine Le Point.
Et au Middle East, oui.
Et voilà. 1994, paru chez Rivage. الراقة بركرو ويش هذي الفوضى بتروف زحرا يسيل الشيخ يسوق الكادياك رعبت في السنتر فيل كانت بنا ولا حنش استنى في راس المال
Rock the castle, rock the castle.
Merci Rachida pour ce que le guitariste des Clash, Juliette,
Mick
dit,
Jones,
ouais, considérait.
Avait dit que cette version était la meilleure version ever de Rock the Casbah. Et il savait ce qu'il disait, Mick Jones.
Merci Juliette. C'est Adeline Mehdi qui est en notre compagnie, journaliste, écrivain, qui publie 1994 aux éditions Rivage, et Alex pour l'entourer.
Juliette Arnaud déjà qui parlera du livre tout à l'heure. Guillaume Meurice qui est retourné à l'Assemblée nationale.
Oui, j'aime beaucoup.
Et puis une thématique pour Pablo Mira, l'arabe à l'école.
C'est cadeau. Là, c'est buffet à volonté pour moi aujourd'hui, Alex.
Allez, on se remet d'équerre sur l'info.
Quand j'entends que je défends pas l'intérêt général, non mais ils se foutent de qui ?
Le journal de presque 17h17.
Et maintenant, tu vas prendre tes gouttes.
Et on commence par les titres.
Richard Ferrand laisse entendre qu'il ne quittera pas le perchoir s'il est mis en examen.
Oui, après, vous m'excuserez de ne pas être une femme, vous l'excuserez de ne pas être un innocent.
Justement, le ministère de la Justice veut réduire la population carcérale de 8000 personnes.
Oui, quand ils ont entendu cette info, Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy et Jérôme Cahuzac ont poussé un grand ouf de soulagement.
Est-ce qu'il y aura des brèves ?
Eh oui, à la Richard Ferrand. Vous m'excuserez de faire des brèves ? Ça vous pose un problème ?
Et on commence par Cache Investigation. Élise Lucet enquêtait hier soir sur le lobby du plastique.
Et pour ce faire, elle est allée en Belgique, à Bruxelles, et elle a épinglé un certain Gérald Bocken, membre du Clean Europe Network, hein, une ONG qui lutte contre la pollution causée par les déchets plastiques, mais qui en fait est plutôt un lobby au service des fabricants d'emballages.
Et petit détail cocasse, notre ami Gérald est également membre du parti écolo en Belgique.
Alors, oui. Et comment on s'en sort d'une accusation difficile d'Élise Lucet quand on est un écolo belge?
Le coupable de la pollution, c'est le pollueur, c'est pas le producteur.
Ah bon?
Wow. Oui.
Pour vous, il n'y a aucune responsabilité des industriels?
Ah, non.
Dans la pollution?
Bah, non. Mon train est là.
Disparition. La fameuse fuite des écolos par le train, bien évidemment.
C'est propre le train, c'est propre. Alexandre Benalla s'est entretenu avec une journaliste de France Inter, Sophie Parmentier, sur la commission d'enquête au Sénat qu'il juge illégitime, au-dessus des lois, dit-il, et bafouant la séparation des pouvoirs.
Bah dites donc, ce garçon est plein de ressources. Il était déjà policier et bagagiste, et maintenant il est constitutionnaliste.
Justement, les sénateurs auditionnaient le chef de cabinet du président de la République.
Oui, François-Xavier Lauche, ce matin, qui nous explique pourquoi c'était une bonne idée d'avoir engagé Benalla.
On ne va pas s'empêcher, lorsqu'on détecte quelques qualités, de faire marcher un petit peu la méritocratie dans notre pays et de ne pas avoir que des sous-préfets ou des profils habituels dans les équipes. C'est ce qui permet parfois d'avoir des approches un petit peu nouvelles dans la préparation des déplacements.
Et les approches nouvelles d'Alexandre Benalla étaient vraiment de proximité. Hein, on va pas se mentir. Il tient de Gandhi un petit peu.
Élysée encore, le poste de porte-parole de l'Élysée, occupé par Bruno Roger Petit, va être supprimé.
Oui, supprimé complètement. Et là, je m'adresse à tous les gens qui se sentent mal dans leur peau et qui se disent « Ah, je suis inutile dans la vie ». Pensez à Bruno Roger Petit et après, vous irez beaucoup mieux.
Allez, on passe au Rassemblement National, ancien FN, et les affaires d'emploi présumées fictives. Marine Le Pen a précisé qu'elle ira chez les juges en octobre.
Oui, elle est maline parce qu'elle a dit en octobre, mais n'a pas dit de quelle année.
Un autre sujet la perturbe, apprendre l'arabe à l'école, évidemment. Pour elle c'est une solution absurde.
Oui, en même temps pour le Rassemblement National, apprendre quoi que ce soit à l'école c'est absurde. Ouais. Si les gens se cultivent trop, ils risquent de perdre leur fonds de commerce.
Et sur ce sujet, elle est d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan.
Eh oui, ce dernier a d'ailleurs reçu un tweet de Jean-Michel Blanquer disant
« Vous êtes un triste personnage ».
Eh ben, mon Nicolas, faudrait te remettre un peu en question parce que quand on arrive à te faire traiter de triste personnage par un mec qui ressemble au papa dans la famille Adams, c'est gênant.
Une page santé, un nouveau rapport de l'OMS. La Belgique est le troisième pays de l'Union Européenne où l'absorption d'alcool est la plus élevée.
Et voilà, on finit encore troisième. Alors je vous préviens, la prochaine fois on vise la première place, parce qu'il y en a marre.
Mais vous avez la meilleure possession de bière.
Il paraît qu'on vit plus longtemps quand même. C'est ça qui est fou, c'est la suite de la... des brèves.
Oui, on rappelle que l'alcool c'est dangereux pour la santé. Oui. Le diocèse de Nancy vend une église pour 190 000 euros. Et ce qui donne envie de faire une petite cagnotte litchi, histoire de se la racheter peut-être pour monter un club gay. Ce qui pourrait être assez sympa.
Allez, la dernière.
Et la dernière, Normandie, elle mise 2 euros au casino et devient millionnaire.
Ah, c'est super.
Et ça donne évidemment des idées à plein de jeunes filles qui n'ont pas le courage de se marier avec un chanteur et d'attendre qu'il décède et de prendre bien le soin de le déshériter de ses enfants.
Merci.
Des propositions de travail, de vie, voyez-vous.
Merci Alex. Avec Adeline Mehdi, le romancier et journaliste algérien, nous allons aborder ce premier sujet. Le ministre de l'Éducation veut donc redonner du prestige à la langue arabe en France. Jean-Michel Blanquer propose d'apprendre l'arabe à l'école comme on apprend le russe ou le chinois. La droite, de droite, très à droite, crie à l'arabisation de la France. Si je fais la... Mais je catégorise comme ça parce qu'il y en a d'autres, à peu près du moment, qui sont juste un peu plus nuancés comme ça, quoi.
Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Ah. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli, quand même.
L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein?
Des millions? Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, un million, Armina?
Pablo Mira, dans... ah non pardon, c'est Jean Dujardin, dans OSS 117 de Michel Hazanavicius. Alors voilà pour cette histoire, Adeline Bédi, vous arrivez pour nous parler de votre roman en 1994, et puis vous arrivez en pleine polémique assez hystérique en France sur ce sujet. D'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette proposition, qui est pas neuve hein, d'ailleurs, de Jean-Michel Blanquer, d'apprendre l'arabe à l'école, comme on apprend le chinois, le russe.
Je réponds en français.
Ah, vous n'êtes pas obligé, comme vous voulez.
Non, ce qui est vraiment accablant quelque part, c'est toute la, c'est pas de la fébrilité, c'est de l'hystérie, mais la proposition ne date pas d'aujourd'hui. Mm-hmm. On parle de l'enseignement de l'arabe depuis très longtemps, depuis même les travailleurs immigrés ici, et comment on va essayer de les intégrer dans la société française à travers, voilà, on va leur faciliter un peu l'accès à la langue et de que leurs enfants se réconcilient un peu avec leur patrimoine qui a été enlevé, etc. Le problème en France, c'est qu'on ramène toujours, on essaie toujours d'imposer des solutions administrative à des problèmes culturels et on fait exactement le contraire. On ramène des solutions culturelles à des problématiques administratives. C'est exactement ce qui se passe avec la radicalisation, avec sa tentative de créer l'islam de France, le judaïsme de France, la chrétienté de France. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire aussi. Mais c'est une manière très hypocrite pour dire il y a un problème, il y a un vrai souci avec une communauté, avec ce qu'on pense être une communauté, que les différentes politiques de gauche et de droite a mis complètement de côté. Et cette frilosité par rapport à l'enseignement de l'arabe va encore aggraver les choses. Pourquoi ne pas banaliser la question? Rabelais en parlait à l'époque. Il disait grec, latin, l'hébreu et l'arabe aussi. Donc, c'est un vieux débat qui est toujours là, mais le fait de le banaliser, de ne pas en faire, parce que c'est comme si les différents gouvernements, quand ils parlent de cette question, soit l'islam ou l'arabe, comme s'ils touchaient de la nitroglycérine, ils sont là, après, ils se mettent comme ça en attendant la première réaction de la droite, ou même de certaines gauches. Il faut vraiment traiter les choses de manière très claire et très normale. Quand on parle du port du voile dans les écoles, et on va délirer sur les signes ostentatoires de la religion. Signes ostentatoires de la religion. C'est quoi un signe? Est-ce qu'une main de Fatma portée par une fille normale, est-ce que ça c'est un signe ostentatoire? Au lieu d'imposer des règles très strictes et très claires, il faut revenir à la loi et au civisme. Ça veut dire, dans la France des années 40-50, on a fait tout un chemin pour expliquer aux petits écoliers de ne plus porter le béret quand on rentre en classe. Comment ça s'est fait, ça? Il y avait des fatwas, il y avait un décret, un débat au Parlement? Non. Ouais. C'était le civisme qui avait été imposé.
Oui, une question est peut-être totalement naïve, mais est-ce qu'il y a un seul arabe? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un arabe qu'on pourrait enseigner qui serait compris par les Marocains, les Algériens, les Égyptiens? Ou quel arabe on enseignerait, du coup?
Il y a l'arabe classique, ce qu'on appelle l'arabe classique, qui se développe énormément, qui devient un arabe qui vient avec le temps d'aujourd'hui. On appelle aujourd'hui l'arabe média, c'est-à-dire l'arabe qu'utilisent les grands médias à Londres, pan-arabe, au Qatar, comme Al Jazeera, les grands journaux, qui est un peu un arabe où il y a beaucoup d'anglais à l'intérieur et qui est beaucoup souple, qui est moins compliqué aussi.
Mais qui est compris par tout le monde.
Qui est compris par tout le monde parce qu'il y a une grande variété, même à l'intérieur même des pays.
Adeline Mehdi, voilà pour l'éclairage sur cette question. Putain, je parle comme une journaliste. Voilà pour, merci notre expert pour ce décryptage. Exactement, il est 17h32 sur France Inter. Et c'est l'heure de donner la parole à celui qui sait dire « rentre dans ton pays » en plus de 145 langues. C'est vous, Pablo Mira, notre expert sur ce plateau, bien sûr, ne zappez pas. Et donc Pablo, vous revenez aujourd'hui sur cette proposition de Jean-Michel Blanquer de renforcer l'apprentissage. l'arbre à l'école.
Ouais, ouais, merci Charline. Alors moi je vous le dis, ça va être très direct. La proposition de Jean-Michel Blanquer est tout simplement inacceptable. Laisser l'arabe être enseigné à l'école, ce serait faire entrer le renard dans le poulailler. Et moi je veux pas me réveiller un jour en découvrant que les poules se sont renardisées et qu'elles portent désormais une barbe rousse tout en agressant au couteau d'autres poules sur le canal de l'Ourcq. Je suis perdu dans ma métaphore, j'ai l'impression. Non, c'est très grave ce qui est en train de se passer, Charline. Moi j'ai pas envie qu'un jour mes gamins soient capables de comprendre ce que chante Faudel. Rachida, d'accord, Faudel, jamais. Et puis en vrai, désolé, mais qui parle arabe sur Terre, je veux dire. À part peut-être notre invité, je veux dire, personne d'autre. Alors moi d'ailleurs, j'ai des chiffres, je vous les donne, ils sont pas très précis. J'ai 375 millions de personnes selon Wikipédia et j'ai 375 millions de voleurs selon la mairie de Béziers. Alors pour les défenseurs de cette idée saugrenue, les cours d'arabe à l'école seraient un moyen de ramener sur le droit chemin des jeunes qui vont en fait apprendre l'arabe à la mosquée et puis qui se retrouvent endoctrinés dans la foulée. Alors sur le papier, c'est bien, mais c'est une fausse bonne idée. Si on veut lutter contre le salafisme, c'est pas en donnant des cours d'arabe, mais en donnant des cours d'islamophobie. Des cours avec des théorèmes très simples, comme le fameux théorème de Vauquier, qui est le suivant, je vous le donne. Arabe plus stéréotype puissance 5, moins racine de carré de paranoïa sur hypoténuse, égale dit de la merde. Allez, je vous pose moi une question qui fâche un petit peu. Est-ce que c'est pas plus urgent, peut-être, pour nos enfants, plutôt que d'apprendre l'arabe, eh bien qu'ils apprennent correctement le français, tout simplement, parce que là, le niveau, il faut le dire, ce qui est, il est catastrophique. On entend de plus en plus d'horreurs qui sont dites à l'oral, comme « il faut qu'ils croivent », comme même, ou tout de suite la chronique de Guillaume Meurice. Et cela, à cause du manque de sérieux, je crois, dans l'éducation des gosses, des gamins, parce que en fait, on ne se relie même plus. En fait, quand on envoie un message, on est dans la culture du vite fait, mal fait, hein, ou ce qu'Alex appelle la culture du « oh, désolé, je suis navré, mais ça t'a plu quand même Regardez, moi Charline, je vais vous prendre un exemple.
Oui,
ça va prendre un petit moment. Je vais vous lire un texto que j'ai reçu de ma sœur ce matin. Elle va pas être contente que je lise ça à l'antenne, mais regardez le nombre de fautes. Je vous lis ça, Charline. Mm-hmm. Pablo, pas de faute, ça va. Maman est morte. De T.E. à morte. Elle a été renversée sans eux, par un camion. Je suis à la morgue, A.U. morgue, viens sans S. Tout le monde est déjà là, avec un S à la fin. Non, moi je vous dis, quand je vois ça, nom de Dieu, je réponds même plus, moi, quand je vois ces genres d'erreurs. Non, il faut mettre le paquet sur la langue française ou à défaut dans les dialectes régionaux qui font partie de notre culture. Les enfants pourraient par exemple apprendre l'alsacien, qui est toujours très parlé du côté de Strasbourg, ou apprendre le biolet, toujours très parlé, du côté de la dépression. En tout cas, personnellement, toutes les langues me vont si ça permet d'éviter l'arabisation de nos écoles, parce que pour mémoire, la dernière fois qu'on a laissé un Français parler avec ne serait-ce qu'un simple accent arabe, eh bien c'était en 1991 et c'était la gaffe avec la Zoubida, et deux semaines après c'était l'opération Tempête du désert en Irak. Coïncidence ? Évidemment. Donc moi je vous le dis tout de go, Charline, ouais. L'arabe à l'école c'est non, non. Non.
Mais alors Pablo, pardon de vous dire ça, mais oui, et les langues comme le chinois ou le japonais à l'école, vous êtes contre également ? Comment ça se passe ?
Attendez Charline, je vais regarder tout de suite dans la liste des peuples que je hais sans raison. Alors j'ai qui ? J'ai les Africains, les Italiens, les Indiens Shipibo, c'est une évidence. Les Belges... Non, a priori, le chinois et le japonais, c'est bon, Charline, on peut y aller. Pour conclusionner, avant d'étudier l'arabe, moi je leur ai dit, nos enfants devraient déjà apprendre à maîtriser le français, la plus belle langue du monde, désolé. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh bien, je leur citerai David du Loft 2, Loft Story 2, ce ronçard de l'illettrisme, qui disait, ouais, bah les gens, tu les emmerdes avec un grand A. Allez, salut.
Merci, Pablo Mira.
Pour ajouter à ce petit sujet, en Italie, ils ont fait un micro-trottoir en allant dire aux gens, est-ce que vous trouvez bien qu'on utilise des chiffres arabes à l'école à partir... Et les gens étaient choqués, scandalisés, ils étaient tout à fait contre.
Bah, donc, moi aussi, hein. Bien sûr. Fais tout en chiffres romains. Merci Pablo qui a bien remis l'église au milieu du village.
Il fallait que je rééquilibre.
Bah bien sûr, il rééquilibrait avec Adeline Mehdi qui a été quand même très très pro-arabe sur vos réponses, hein, Adeline Mehdi. Le romancier avec nous, Juliette Arnoux, va reparler du roman de notre invité et puis Guillaume Meurice, bien sûr. We'll be right back. chante Tata Fatiguée sur France Inter. Notre invité, c'est l'écrivain algérien Adlène Mehdi. Et à vos côtés, Adlène, il y a Guillaume.
C'est moi. Je vais évidemment vous parler de l'élection de Richard Magic Ferrand. Quatrième personnage de l'État, derrière Jacques Attali. On s'est beaucoup moqué de lui, donc je voulais plutôt aujourd'hui lui rendre hommage, si vous le permettez. On a dit qu'il avait été machiste. Excusez-moi. C'est comme un mec qui fait des super cadeaux à sa femme. Je suis désolé, un local commercial des travaux. Alex, je vous rappelle, dernier cadeau à votre compagne, une montre flic-flac. Donc, je vous, hein, je la ramènerai pas trop. Laissez Richard, cœur de lover, tranquille. Donc, je suis allé à l'Assemblée ce matin pour vanter les louanges de Richard, les louanges à Hariri, comme on dit. On commence avec Coralie Dubost. Et je vous rappelle que le silence qui suit mes questions, c'est déjà du Coralie. Pourquoi Richard Ferrand est un homme bien et est l'homme de la situation ?
Pourquoi il est l'homme de la situation ? Parce que
c'est pas évident. Hein.
Non, mais résumé comme ça, en deux secondes, bien sûr que si, j'ai voté pour lui, j'ai pas de difficulté là-dessus. Non, c'est quelqu'un qui a de l'étoffe.
Ah, premier bon point, c'est quelqu'un qui a de l'étoffe. C'est un petit peu le Cyrano du Palais Bourbon. C'est vrai que dès qu'il n'y a plus de pâté aux truffes à la cantine de l'Assemblée, bah Richard, c'est le premier à monter au créneau. Il y va d'ailleurs avec Pablo. On est en train d'organiser un duel entre Richard Ferrand et Gérard Larcher, retransmis en direct sur Cuisine TV.
Il y en a un qui va gagner de toute évidence.
C'est sûr, ça va être saignant. Ou alors, je propose peut-être un duel de blagounette, parce que selon Coralie...
Richard a beaucoup de traits d'humour, par ailleurs.
C'est vrai ?
Ah bah oui, vous le savez, vous connaissez le personnage.
Ben non, mais on le connaît pas comme un humoriste, justement.
Mais écoutez, il a l'art de la formule, et il a l'art du trait d'humour bienvenu, et c'est un trait d'humour que de constater qu'il n'est pas une femme, mais je crois pas que ce soit très choquant.
Ah ben ça, on l'avait pas vu venir. Richard Ferrand, drôle.
Ah oui.
Ah bah oui, ça, ouais, on est là aussi pour apprendre des trucs, ouais. C'est pas le dernier pour la déconne. Noce, banquet, anniversaire, il nous faut une ambiance de taré avec son fameux sketch, monte là-dessus, tu verras l'hémicycle, co-écrit avec Jean-Marie Bigard, hein, bientôt au spectacle, au cabaret du Chat qui pète. Allez, on continue avec Jean-Baptiste Moreau, député LREM, toujours. Autre qualité de Richard.
C'est quelqu'un qui a une expérience politique, donc est capable de gérer aussi les oppositions et les leaders d'opposition. Voilà, c'est tout.
C'est un vieux roublard, quoi.
C'est quelqu'un qui a de l'expérience politique.
Est-ce qu'on peut appeler un vieux roublard?
Oui, si on veut.
Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. C'est un mec qui passe de la gauche du PS à Macron pour finir avec Édouard Philippe. Enfin, disons que c'est pas la cohérence qui l'étouffe. Mais je vous rappelle qu'en politique, c'est une qualité. Alors, comme évidemment, moi, je l'aime bien, Riri, mais plus que tout, ce que j'aime, c'est l'objectivité. J'ai quand même demandé aux députés de me citer un défaut de Richard Ferrand. Ouais. Je trouve que c'est sport. Par exemple, Benoît Simian, député LREM de la Gironde.
Un défaut
à Richard Ferrand.
Écoutez, moi je trouve que c'est quelqu'un qui, depuis le début de ce mandat, fait preuve d'une patience à tout va.
Alors ça, on est bien d'accord que c'est pas un défaut.
La patience. Vous laisse, c'est vous les commentateurs politiques.
C'est vrai, chacun son truc. C'est vrai que Richard, son défaut, c'est qu'il est patient. Et ça, c'est un problème. Et il est perfectionniste aussi. Ça, c'est... Et il est beau. Il est beau et ça, c'est vraiment toujours agaçant. Alors, au risque de vous choquer, il y a des députés de la majorité qui sont encore plus vindicatifs. Ce sont les députés Modem. Parce que figurez-vous, il en reste. Ça aussi, c'est une info. Alors eux, ils sont fous de rage. Ils ont pété un câble. Ils ont même donné un coup de pied dans un édredon ce matin. Enfin, c'était d'une violence extrême. Et ils présentent un candidat contre Ferrand. Marc Fesneau, il s'appelle. Alors, bien sûr, la séquence qui va suivre peut choquer les plus jeunes d'entre vous. J'ai interrogé Laurent Garcia. C'est un député Modem. Est-ce que la dissidence est en marche?
C'est pas de la dissidence du tout, c'est une candidature à côté, c'est pas contre quelqu'un. Nous avons des valeurs aussi à faire entendre au Modem et à parler.
Mais qu'est-ce qui vous différencie de La République En Marche, sur le fond ?
Peut-être une certaine vision plus large de rassemblement et de prise en compte et d'écoute de l'autre.
Putain, ça fait froid dans le dos, j'avais prévenu, hein, je suis désolé, ça fait vraiment flipper. Une charge violente hein, portée contre le pouvoir en place. Un rebelle, hein, ce Laurent Garcia, qu'on appelle dorénavant Lorenzo Lamas Garcia. On se rend bien compte hein, qu'on a vraiment deux centres irréconciliables, entre d'un côté un centre qui écoute et l'autre qui écoute bah, quand même vachement moins. C'est inédit dans la 5e République, je crois que Jean Lebrun prépare d'ailleurs une spéciale là-dessus. Fabienne Synthèse dans le téléphone sonne en parlera puisqu'elle reçoit une endive au jambon. Donc c'est une vraie crise politique puisque je vous rappelle que le Modem compte environ 12 adhérents. Bon, il y en a 6 qui se sont plantés parce qu'ils ont vu la couleur, ils ont cru que c'était Orange qui installait la fibre, mais de toute façon, peu importe.
Parce que l'expérience montre que c'est pas le nombre qui fait que ça se passe plus ou moins bien. C'est aussi la qualité du chef, c'est aussi la volonté d'avancer. Et vous disiez, est-ce qu'on est rebelle ? Comme disait ma grand-mère, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche.
Et bam, qu'est-ce que tu vas faire? Je carte d'adhérent. Allez, on va même jusqu'à chercher les blagues de mamie. Tous les coups sont permis. Et avec Richard Ferrand et le modem, on n'est pas à l'abri de se marrer. C'est logique, hein, vu que le rôle du Parlement depuis l'élection de Macron, ça ressemble quand même vachement à une vaste blague.
Merci Guillaume Meurice. C'était magique, comme à chaque fois que vous allez à l'Assemblée. N'est-ce pas Adeline Mehdi? C'est presque aussi magique que cette info qu'on a vu passer ce matin. En Algérie, le MEDEF soutient une nouvelle candidature de Bouteflika. Il y a un communiqué, donc ils sont... Oui. Donc voilà.
Vous ne pouvez pas soutenir autre chose, quelque part.
Non, mais... Alors abordons cet autre sujet, revenons à la littérature. La rentrée littéraire est émaillée d'un scandale. Parmi les 17 livres sélectionnés pour le prix Renaudot, le jury a sélectionné un ouvrage qui n'est disponible que sur Amazon, car il s'agit d'un livre auto-édité. Oui, mais alors, ça veut dire qu'il n'avait pas trouvé d'éditeur, évidemment. Alors que peut-être, il est super ce livre, il a quand même été sélectionné. Alors ce sont peut-être les éditeurs qui sont passés à côté, je ne sais pas moi, et le jury du prix Renaudot.
Alors, j'ai lu votre manuscrit, L'amour dure 3 ans, j'adore, le titre est bien con. Bon, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais bizarrement, il y a un petit ton, hein, une petite musique, je ne sais pas si c'est vraiment voulu, mais... Non, parce qu'on en reçoit beaucoup, hein, des romans de petit tête-à-claque comme ça. Mais là, dans l'ensemble, ça se tient. Je ne suis pas sûre que la forme soit vraiment votre priorité, hein, mais bon, c'est ça qui est vivant. C'est un chouille prétentieux, il faut muscler un peu le deuxième tiers, mais je veux le publier pour la rentrée.
Valérie Lemercier dans L'amour dure 3 ans de Frédéric Brecq-Bédé. Alors voilà pour ce cas d'école, le prix Renaudot, c'est qui choisit dans la sélection un livre qui n'est disponible que sur Amazon, dont on sait que c'est le fossoyeur des librairies, des libraires indépendants, qui s'alarme évidemment, et d'un autre côté, c'est auto-édité, c'est qu'il n'a pas trouvé d'éditeur, il a quand même été sélectionné. C'est cornélien. Vous avez une position là-dessus, Hélène Mehdi?
C'est cornélien et ça rappelle un peu ce qui s'est passé au Festival de Cannes avec ce film de Netflix.
Oui, c'est ça.
Et y a eu toute une polémique parce que la condition qu'un film qui est montré à Cannes doit être aussi dans le circuit cinéma. Et cette année, apparemment, il y a eu un recadrage, donc il n'y aura pas de film Netflix parce que le Festival de Cannes impose la consigne d'être vu après sur les écrans cinéma. Moi, ce qui m'intéresse dans cette polémique sur Amazon, c'est que, et je le dis de mon point de vue extérieur, c'est pas Amazon et ses drones qui me distribuent pour le moment, mais on a laissé de manière générale le libéralisme sauvage grignoter tellement dans ce domaine. On n'a pas, à mon sens, même à travers d'autres pays du côté occidental de la planète, quand on commence à voir des livres vendus dans les supermarchés, c'est déjà un scandale. Ça a commencé il y a longtemps. Amazon, c'est un peu l'exagération, c'est vraiment le mastodonte qui veut tout détruire, tout tuer, etc. En même temps, ça peut être une chance. Parce que ça me rappelle un peu quand Internet est venu, on a dit que la presse va disparaître, il y a de nouvelles manières de dire, de parler, il y a de nouvelles manières de lire, etc. Ça a poussé les journalistes, certains médias, à créer de nouveaux horizons, de nouvelles manières de faire. Peut-être que la menace Netflix, la menace Amazon, la menace Uber, même si j'utilise beaucoup Uber, mais voilà, c'est un peu une manière d'essayer de détruire le système de l'intérieur, mais ça marche pas du tout. C'est pas le fainéantisme, beaucoup plus. Peut-être que c'est la violence de ces systèmes-là, de cette précarisation du système, va pousser les libraires, les cinéastes, les réseaux à créer de nouvelles solidarités, à créer de nouvelles formes, à se battre autrement.
Oui, mais le jury, est-ce qu'il a une responsabilité quand il choisit
Bien sûr qu'il a une responsabilité.
Il a une responsabilité parce qu'il participe à ce jeu-là, vous disiez.
Bien sûr qu'il a une responsabilité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, on s'est offert le luxe de vivre à côté d'Amazon, à côté de l'auto-édition, à côté de la précarisation du photographe, de l'auteur, etc. Aujourd'hui, on se le prend en plein gueule et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir. Les pouvoirs publics doivent commencer à réfléchir. La dernière pétition des auteurs sur la situation des auteurs et des droits, ça c'est quelque chose d'important et ça se pose de plus en plus. la précarité du photographe de guerre. Mm-hmm. On rappelle la situation des collègues pigistes qui sont en Syrie, envoyés par des médias français, occidentaux. Et quand ils sont là-bas, quand ils envoient de la matière, c'est très bien. Mais quand ils ont des problèmes ou quand ça devient financier, c'est complètement autre chose.
Et sans protection sociale.
Tout le monde est rentré dans ce système. Il faudrait un moment que, comme on dit en arabe, « Hatta ilhaq al-musladam ».
Ce qui veut dire
réécouter la chronique
de attendre, voilà.
Ce qui veut dire
il ne faut pas attendre jusque le couteau atteigne l'os pour réagir.
Merci Adeline Mehdi. Et bien justement, revenons à votre roman avec Juliette.
Oui. Ah. Voilà, c'était une langue de belle-mère. Parce que hier, c'était l'année du coup d'État de Pinochet au Chili, soutenu par les États-Unis pour faire tomber le gouvernement socialiste démocratiquement élu. Vraiment, Juliette, une langue de belle-mère, ça se fête. Non, pas vraiment, mais c'est aussi la date anniversaire du dernier discours de Salvador Allende à la radio. Il dit dans ce discours qu'il luttera jusqu'à la mort et il en mourra le jour même. C'était un 11 septembre, c'était en 1973 et je le cite, « L'histoire ne s'arrête ni avec la répression, ni avec le crime. C'est une étape à franchir, un moment difficile. Il est possible qu'il nous écrase, mais l'avenir appartient au peuple. » Plus loin, il dit « Je m'adresse à la jeunesse, à ceux qui ont chanté, transmis leur gaieté et leur esprit de lutte. » Ces mots-là, cet espoir, cette croyance, sont ceux d'un Chilien. Salutations distinguées, Salvador. Mais ils sont universels. J'ai choisi ces deux extraits parce qu'ils résonnent dur avec 1994, le livre de notre invité. J'ai choisi ces mots-là, la répression, le crime, la jeunesse. Alors, quelle jeunesse ? Celle qui a 17 ans en 1994, ou celle qui avait sensiblement le même âge juste après la bataille d'Alger, la jeunesse des fils ou la jeunesse des pères. Pour une fois, je pense que le grand Jojo Brassens avait tort quand il chantait « Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con ». Parce qu'on peut avoir été un type jeune dans le camp de la liberté dans les années 60 en Algérie, celui des Fedaïnes, et être un type vieux avec du sang plein les mains dans les années 90. Ici, bien sûr, le mot « con » est léger, « salaud » ou « assassin » est plus approprié. Ici, l'auteur est clairement du côté de ceux qui n'ont pas choisi d'être jeune en 94. En même temps, c'est la génération d'Adeline Mehdi. Celle qui crève de devoir choisir entre les barbus et les barbouzes. Multiplier les allers-retours entre 62, 94 et 2004, le moment où le roman débute, c'est pour à chaque fois viser la jeunesse, l'ausculter. Parce qu'être jeune, c'est avoir la sensation d'avoir rien à perdre. Bah ouais, pas d'enfant, pas de crédit, pas de mégane scénique. L'avenir, c'est plus tard et c'est toujours trop tard. Alors on se dit, quand on a 17 ans, il faut faire quelque chose. Parce que quand on a 17 ans, on est sérieux. Bah décidément, aujourd'hui, je suis fâchée avec les poètes français. Alors une bande de potes lycéens, en 1994, dans la banlieue d'El Arache, pas loin d'Alger, en 94, Amine, Sedali, Farouk, Nofel, se disent, il faut faire quelque chose. Il faut passer de lycéen à combattant. Et faire quelque chose, en ces années terribles de guerre civile, d'attentats, de services secrets militaires au plein pouvoir, c'est un méchant risque, celui d'y laisser sa peau ou son âme. Et c'est de se retrouver 10 ans plus tard, en 2004, totalement déglingué, comme Amine, prisonnier d'un hôpital psychiatrique, porteur malgré lui d'un genre de boîte noire dans la tronche, avec une preuve, une arme, un Beretta 7.65 et un bout de mémoire que veut disséquer un apparatchik puissant qui, avant, était un mec presque bien. Rimbaud, celui qui pense qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, précise ensuite dans le même poème, roman 1870, « Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût ». Faux, Arthur ! Faux de rechef, mec ! Oui, les amis s'en sont allés, plus ou moins contre leur gré, mais dans 1994, il y en a un qui revient, Sidali, 10 ans plus tard. Il quitte Marseille, il quitte la France, parce qu'il ne peut pas laisser Amine, son roya. Il pense « Khlas, c'est bon, ça suffit ». Même si au moment de franchir le pas, son monde, à Sidali, c'est un monde grouillant de morts, de souvenirs, de terre, de sa terre à lui et de ses tombes. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup pour cette lecture donc de 1994, le roman d'Adeline Mehdi paru chez Rivage. Adeline Mehdi, vous serez à Besançon vendredi et samedi pour le livre Dans la boucle. Et Juliette y sera aussi. Parce que Juliette, vous venez de publier votre premier roman, Comment écrire à Dieu, paru aux éditions Belfond.
Eh oui,
eh oui Juliette.
Mais c'est vachement bien.
Et ouais, on l'a lu cet été. Ouais.
Mais elle ne lit pas la fin, je l'ai
pas Elle meurt.
Alors, Adeline Mehdi, tiens, j'en profite pour dire aussi que vous serez à la fête de l'UMA. Ce sera dimanche au village des livres, on pourra vous rencontrer. Et puis.
On y sera aussi.
Non, on y sera vendredi à la fête de l'UMA. Venez nous voir à l'Agora à 17h en direct.
Il y a des chances.
C'est vrai. On peut passer au sketch déjà.
On peut passer au sketch. Il est prêt, bien entendu. En fin d'émission, on propose un rôle à l'invité. Vous allez jouer avec Guillaume et Charline, la rédaction photo de Paris Match. Parce que Là, ils sont sur un gros coup. Demain, c'est Michel Drucker en couve qui essaye de grimper comme ça sur une échelle. Et à l'intérieur, il fait des haltères. Donc, autant vous dire, les photos magnifiques. Je vous conseille de vous jeter sur le numéro. Non, mais bien sûr, c'est vrai.
Ah la vache.
Bien sûr, c'est vrai. Alors, comment ça se passe à Paris Match pour trouver toutes ces bonnes idées? Les trois spécialistes se retrouvent. On se rend là-bas.
Salut les gars.
Salut Jean-Marc.
Salut Jean-Marc.
Salut Jean-Paul, salut Jean-Janine. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, j'étais chez Bribri et Manu là.
Où ça?
L'Elysée.
Oh, ça va, on est entre nous, fais pas t'amuserer, hein. Tu vas une semaine sur deux.
Eh, dites bravo pour les photos de Michel Drucker avec ses haltères là, on croirait pas du tout qu'il est né en 1750.
Et du coup, on fait quoi cette semaine en une?
On fait Manu et Brigitte, non?
Ah bah non, on l'a déjà fait la semaine dernière.
Non,
ah.
Puis on va le faire la semaine prochaine.
Bon, il faut qu'on se repenche sur nos meilleures photos là. Jean-Paul, va me chercher les archives.
Alors on a la photo de Pinico qui fait du yoga.
Ouais, très bien,
ça
c'est très bien.
Top, ça. Ouais.
Jean-Michel Blanquet sur sa planche à voile.
Ah ouais, très bien, ça
c'est top.
Super,
aussi.
Super, ouais.
Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans le même esprit?
Alors moi, j'avais pensé à Mélenchon qui joue au boule à Marseille avec un bob aux couleurs de l'OM.
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, ouais.
Alexandre Benalla sur un rack de boxe.
Ouais. On n'essaierait pas l'international?
Ah ouais, si, alors bonne idée. Ouais, ouais, Bouteflika en train de faire du parapente. Ouais.
Je sens pas ça.
Non, non, non. Écoutez les gars, on a déjà plus trop le poids des mots, il faut au minimum le choc des photos là.
Ah attends, on peut peut-être essayer Natacha Polonie avec une burqa.
Ok, mais on met quoi entre les pubs alors?
Enfin, à l'intérieur du magazine quoi. Oui.
Bah, on a eu une interview de Renaud qui raconte sa descente aux enfers.
On l'a pas déjà fait il y a 15 jours ça?
Si, mais entre temps il est redescendu. Ah, donc,
Sinon, on a un super reportage sur le Yémen.
Ah, magnifique le Yémen! Ah, attends, moi j'ai fait un trek incroyable là-bas il y a deux années.
Vous savez, parfois je me demande à quoi on sert.
Hein? Bah, pourquoi?
Mais pas du tout, mais je te rappelle qu'on a fait un numéro spécial Castaner quoi, et on avait appris qu'il aimait les Canaries alors.
Est-ce que les gens nous lisent encore?
Moi, en tout cas, j'ai lu le spécial Alain Delon. Hein.
Mais c'est il y a 6 ans.
Bah, je sais, mais hier...
6 mois.
Ouais, c'est ça.
Ça marche aussi.
Ça marche aussi. Puis hier, j'étais chez le dentiste dans la salle d'attente. Tu sais qu'il est triste, Alain.
Ah bah non, ça, c'était celui d'il y a 12 ans. Adeline Mehdi, comédien également à 16h. Adeline Mehdi, on a pas eu le temps d'aborder un troisième sujet qui est paru dans l'Express sur les villes les plus agréables de France.
C'est Roubaix.
Alors il y a Limoges, il y a Angers. C'est l'information d'ailleurs, c'est qu'il y a Limoges dedans. Hein, ça, c'est parce que les Parisiens fantasment de quitter
Angers
Paris.
Angers premier, je crois.
Ouais. Ça c'est le genre, la presse française aime beaucoup ça. Alger, c'est une ville à côté d'Alger. C'est pas Alger même dans votre
roman. Harach, oui, c'est une ville à côté.
Ouais. Mais Alger, ça fait partie aussi du décor de vos romans, etc. Aujourd'hui, c'est comment Alger? Est-ce que vous, qui vivez là-bas, vous n'avez pas envie de est-ce que la jeunesse a envie de fuir ou justement?
Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent fuir, pas seulement la jeunesse, mais il y a beaucoup de fuites de capitaux aussi en même temps. Ouais. Mais en Espagne, notamment, pas en France, parce que.
Ils veulent venir en Espagne.
Oui, l'islamophobie en France, ça fait trop peur, même.
Attention, on vous envoie Manuel Valls. Alors, je peux vous dire, ça a été réglé.
Mais en tout cas, l'époque que vous décrivez, Adeline Mehdi, dans 1994, Alger est une souricière. Voilà, c'est donc de votre roman et qui permet de se replonger dans cette époque et de la comprendre. Comme l'a bien expliqué Juliette Arnaud, 1994, Adeline Mehdi, c'est paru chez Rivage. Merci beaucoup. D'avoir été là. Donc vous êtes à la fête de l'UMA dimanche, à Besançon vendredi et samedi, à Paris c'est l'Arbre à Lettres jeudi à 19h. Merci les amis, merci Pablo Mira, Alex, merci Juliette, Guillaume. On va se retrouver demain avec Marc Lévy, figurez-vous. Et voici le mot de la fin qu'on laisse au débuté Modem qui a été interrogé par Guillaume cet après-midi.
Comme disait ma grand-mère, mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche.